top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MGV, c'est vous qui représentez le système.
Bonjour à tous, il est 9h40 sur France Inter et c'est le dernier instant M de la semaine.
Vous êtes en direct, allez-y.
La ministre de la Culture l'a dit haut et fort, cette année, on voit plein de gens à la télé, seulement 0,8% d'entre eux sont en situation de handicap. 0,8%, c'est carrément frappé d'invisibilité, 12 millions de Français. L'exception qui a fait gonfler les chiffres, les Jeux paralympiques de Rio en 2016, remarquablement couverts par France Télévisions, 100 heures de direct plébiscitées par le public. Mais l'héroïsation des athlètes handicapés ne dit rien. Rien du quotidien de ceux qui ne se sentent pas représentés, ni par les journalistes du petit écran, ni par les séries, ni par les jeux télé, censés pourtant montrer des gens dits nous ressembler.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Thomas Soto.
Bonjour Sonia De Villers.
Présentateur de compléments d'enquête cette saison sur France 2, vous êtes journaliste et animateur télé depuis 18 ans. Vous vous montrez donc sur le petit écran, vous êtes handicapé, personne ne le sait parce que vous avez préféré le cacher, tout simplement. Alors ce matin, vous nous racontez votre histoire. Voilà, l'idée c'est que au nom de tous, les choses doivent bouger. Thomas, et on va y venir dans un instant. Mémona Interman, bonjour.
Bonjour Sonia Douillet.
Membre du CSA où vous vous occupez de cohésion sociale parce que oui, la télévision c'est aussi un outil de lien social et de questions du handicap. Alors, comment la télévision française peut-elle se satisfaire de chiffres pareils? Vraiment, on va vous interroger parce que ce chiffre est totalement vertigineux et inadmissible. Alors d'abord, coup d'œil au plateau de Touche pas à mon poste. Ce soir sur C8, Cyril Hanouna peut prêter le flanc à nombre de critiques. Mais s'il y a bien une qualité peu répandue dans ces émissions, c'est celle d'y faire vivre des gens de tous les âges et de tous les physiques. Ce soir, la bande habituelle d'Hanouna cède sa place à des chroniqueurs handicapés. On a passé un coup de fil à l'animateur pendant la préparation de l'émission.
Ça fait longtemps que je voulais le monter. En fait, moi, je suis très proche d'une association qui s'appelle Média Handicap avec un garçon qui s'appelle Sébastien Proyard, qui est handicapé et qui se bat comme un fou tous les jours. Et je vais les voir très souvent. Et la dernière fois, je suis allé les voir. On faisait des épreuves pour me mettre en situation de handicap et pour voir comme leur quotidien est difficile. Et à un moment, j'ai dit, les mecs, moi, j'aimerais bien que vous veniez à ma place et que vous voyez aussi ce que c'est qu'une émission de télé. Donc, est-ce que vous voulez pas qu'on fasse une émission avec que des chroniqueurs en situation de handicap? Puis on en a parlé à la chaîne et la chaîne a dit, bon, il n'y a pas de problème. Le conducteur de l'émission va être le même. Sauf qu'on va avoir que des chroniqueurs en situation de handicap autour de la table.
Et puis c'est quelque chose qui est toujours très présent dans tes PMP, toujours très présent et en même temps très naturel, c'est-à-dire que dans vos émissions, dans le public, il y a toujours des personnes en situation de handicap, il y a toujours des personnes en fauteuil roulant qui sont souvent au premier rang, avec lesquelles vous jouez, vous déconnez, vous rentrez, vous sortez du plateau.
Ouais, c'est vraiment ça, c'est parce que la plus belle émission que j'avais faite, franchement, de ma vie, c'est un jour on m'avait demandé de faire une tranche du Téléthon. J'avais en fait que des témoignages de personnes qui étaient sur des fauteuils. Et il y en avait un qui m'avait dit un truc. Il m'avait dit, Cyril, j'en ai marre qu'on nous regarde avec un regard de pitié ou un regard de compassion. J'aimerais qu'on nous traite d'égal à égal. Quand je te vois, j'ai envie que tu déconnes avec moi comme tu déconnes avec les autres et que tu me vannes comme tu fais avec les autres. Et c'est ce qui va se passer demain avec les chroniqueurs. Je vais les vanner pareil que mes chroniqueurs. J'espère qu'on va se marrer en tout cas pareil. On sera en direct, donc sans filer. Eux aussi, ils ont une grosse pression, tous ceux qui vont être autour de la table. Voilà, alors c'est important de montrer, de discuter avec eux, de voir un petit peu comment leur quotidien est difficile. Mais aussi, ils ont surtout envie de se marrer. Voilà.
Alors vous, Cyril, qui avez une déjà assez longue carrière de télévision derrière vous et qui animez justement, comme vous l'avez dit, une émission consacrée à la télévision, vous l'expliquez comment cette invisibilité, parce que les chiffres du CSA sont totalement effarants, cette invisibilité du handicap à la télévision?
J'ai pas envie de mentir là-dessus, moi je suis producteur aussi, et je vous jure, et ce qui est dingue et ce qui est grave, c'est que quand vous allez voir des patrons de chaîne ou des gens qui sont décideurs, et ben ils vous disent non, mais c'est des personnes en situation de handicap, en audience c'est compliqué, franchement on peut en faire une comme ça, par an, mais c'est tout, c'est compliqué après. Ces 8, ils sont pas du tout dans ce registre-là, et il n'est pas impossible que moi j'en garde un ou deux qui soient là récurrents autour de la table, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a tous des choses intéressantes à dire. On prend l'exemple d'Intouchable, Intouchable avant que ça se fasse. Il y a eu je ne sais pas combien de producteurs et combien de chaînes qui ne voulaient pas rentrer dans le projet parce qu'ils disaient non, les handicapés ça marche pas. Déjà entendre ça, moi ça me hérisse le poil, donc je peux pas entendre ça. Et moi j'ai dit à C8, vous allez voir, je vais vous prouver aussi que l'émission va cartonner, on va déconner comme on le fait tout le temps. Mon but c'est qu'au bout de 10 minutes, les téléspectateurs se disent, mais c'est, on sait même plus que c'est des personnes en situation de handicap, c'est juste des personnes qui nous font marrer, qui donnent leur avis, qui sont intéressants.
Allez, chiche, touche pas à mon poste spécial handicap, aussi potache que d'habitude, ça rassurez-vous, on peut faire confiance à Hanouna. C'est ce soir, c'est sur C8 et c'est à 19h.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Thomas Soto, je l'ai dit, est mon invité, le présentateur de Complément d'enquête, 18 ans de télévision et de journalisme derrière vous. Thomas, en fait, votre handicap, c'est quelque chose que vous avez toujours préféré cacher, pour des raisons intimes, bien entendu, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter d'où il vient ce handicap et comment ça s'est passé pour vous ?
C'est un handicap banal, c'est un accident de deux roues, voilà, et je suis handicapé du bras gauche. J'ai pas cherché à le cacher, mon handicap. Non. J'ai compris qu'il fallait mieux ne pas le montrer dans le métier que je fais.
C'est différent.
Ouais, je vais vous raconter une anecdote toute simple. Un an et demi après, moi j'ai fait un an et demi de centre de rééduc. Un an et demi après,
vous avez eu un accident de moto.
Ouais.
Voilà, vous avez été hospitalisé.
C'est ça.
À Gare.
Et puis j'ai fait. Non, c'était pas à Gare. J'étais hospitalisé à l'époque à Boussicault. D'accord. Et après j'ai fait le centre de rééducation de la Châtaigneraie et à Granville où j'ai croisé des gens formidables. Et où on se rend compte que le handicap c'est rien. Enfin c'est rien. C'est la vie. C'est quand on est en peignoir et qu'on va tous faire notre rééduc à la piscine. Il y a plus de handicapés ou pas de handicapés, il y a des êtres humains, voilà, et tous les masques tombent à ce moment-là. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que, on relativise aussi nos problèmes. Moi, je suis le porte-parole de rien, je suis le porte-étendard de rien. Je veux juste aujourd'hui, comme vous me l'avez proposé, venir parler de ça parce que en fait, quand vous m'avez appelé pour me dire c'est marrant votre handicap, vous n'en parlez pas parce que vous l'aviez remarqué, je me suis dit mais c'est vrai. En fait, il y a un moment, il faut dire les choses, il faut accepter parce que pas pour soi, moi ça va très bien, mais pour tous ceux qui n'arrivent pas à percer ce plafond de verre, parce que là aussi il y a un plafond de verre autour du handicap. Et quand moi, au bout d'un an et demi, je reçois un coup de fil d'une responsable de chaîne qui me dit allô, bonjour, comment ça va? Très bien. Et là, mais dans les 30 premières secondes, elle me dit ton bras, ça se voit toujours?
Ça se voit
toujours, voilà. Donc et là, évidemment, j'ai menti. Je dis non, ça se voit plus. À l'époque, mon bras, c'était une ficelle. Voilà, j'étais totalement paralysé du bras gauche. Depuis, j'ai subi moult opérations. Et voilà. Et donc, j'ai dit non, ça se voit plus du tout. Et j'ai compris que ça, c'était la question éliminatoire. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, les choses aient beaucoup changé. Et ce qui est bien, quand j'entends ce que va faire Cyril Hanouna, c'est que enfin, ce soir, pour ceux qui regarderont cette émission, le handicap va être banalisé parce qu'on va pas regarder des handicapés.
Non.
On va se marrer, s'énerver, s'agacer, s'amuser avec des gens qui sont en plateau. Le handicap, il y a une espèce de double peine, en fait. Vous vivez avec votre handicap intimement, et vous vivez avec le handicap dans le regard des autres. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et aujourd'hui...
C'est-à-dire, il y a le regard que soi-même on porte sur soi.
Qui est difficile, parce qu'il faut l'accepter. Il faut accepter la différence physique. Il faut accepter de ne plus être comme avant ou de ne pas l'être comme sont tous les autres quand on est handicapé de naissance.
Vous aviez quel âge quand vous avez vécu cet accident ?
J'avais 25 ans, voilà. Et puis, il y a le regard des autres qui vous renvoie en permanence au handicap. Vous parliez des Jeux paralympiques, formidable vitrine, c'est vrai. Mais la vérité aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'était en 2014, les derniers Jeux paralympiques, ou 2016. Quand on invitait à la radio des athlètes, des médaillés, tout le monde trouvait ça formidable, sauf qu'il fallait 3 agents de la sécurité pour les monter dans les escaliers parce que les lieux sont pas accessibles. C'est ça aussi la vérité du handicap aujourd'hui.
Ça, c'est l'ancien matinalier d'Europe 1 qui
ouais,
vous parle.
Je dis Europe 1, c'est pas Europe 1
non,
ou autre chose.
C'est,
malheureusement, c'est partout ailleurs. Et quand on les entend dire, le problème, c'est qu'on les entend dire ça que pendant la semaine du handicap parce qu'on donne la parole qu'à ce moment-là. On les entend parler que pendant le Téléthon parce que ça, c'est une fenêtre acceptable. C'est une fenêtre de bien-pensance qui est extrêmement utile,
bien sûr.
Téléthon, évidemment. Mais sauf que il faudrait qu'on accepte d'écouter une personne handicapée pour ce qu'elle a à dire et non pas parce qu'elle est handicapée. Voilà, toute la nuance, elle est là pour moi.
Alors, comment ça s'est passé, votre carrière, après ce premier coup de fil, Thomas Soto, où on vous a demandé est-ce que ça se voit et où vous avez menti? Comment ça s'est passé? Parce que finalement, ça ne vous a pas empêché de faire carrière, justement.
Parce que personne ne le sait.
Parce que personne ne le sait.
Parce que moi, il y a des gens qui disent, tiens, de temps en temps, ils voient, qu'est-ce que tu t'es fait mal au bras, machin? Et dans ces cas-là, c'est à vous de les rassurer pour dire, non, oui, c'est rien, j'ai un petit truc. Mais si vous commencez à leur expliquer, là, vous sentez la affolement dans leurs yeux. Il y a toujours cette on est le bizarre. Et encore une fois, je veux le redire, je suis pas dans un fauteuil roulant. Je peux pratiquement tout refaire. Je peux pas lever les mains en l'air. Donc voilà, à la troisième sommation, je me ferai tirer dessus si jamais je me fais arrêter. Mais sinon, moi, j'ai retrouvé une vie comme avant. Voilà. Mais les gens ont toujours peur du handicap. Les gens considèrent toujours que c'est contagieux. On n'accepte pas de... Il y a...
Et puis il y a l'idée aussi peut-être que la télévision c'est un spectacle et que ce spectacle il est très normé. Donc tout là, ce qui déroge à ce spectacle finalement peut créer une forme de... On est là comme ça, focalisé sur quelque chose qui vous sortirait de votre centre d'attention habituel.
Ouais, sauf que ça doit être le spectacle de la vie, la télé. Mm. Et dans la vie, il y a des personnes qui sont handicapées, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des gens drôles, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des gens méchants, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des gens intéressants, d'autres qui ne le sont pas. Et voilà, il faudrait que les personnes handicapées aient le droit à l'indifférence. Et aujourd'hui, elles n'ont pas le droit à l'indifférence.
À la banalité.
Exactement,
et à l'indifférence.
Exactement, à la banalité. Parce qu'aujourd'hui, on les regarde parce qu'elles sont handicapées. On va les écouter parce qu'elles sont handicapées à un moment donné.
Vous avez exercé plusieurs métiers dans votre vie de journaliste. Quand on aborde un nouveau plateau télé avec un nouveau dispositif de caméra, d'image, vous avez présenté Capital, là vous présentez Complément d'enquête, vous remplacez également Laurent Delahousse pour le 19h du dimanche de France 2. Vous vous reposez cette question, elle revient sans cesse, c'est-à-dire comment je me place, comment je fais avec mon corps.
Ouais, mais je me pose la question à moi-même. Je ne vais pas aller voir le réalisateur en disant dis donc, en fait, j'essaye de ruser. Voilà. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore complètement digéré ou complètement accès, ou que je ne suis pas complètement à l'aise avec le regard des autres, sans doute. Et c'est quelque chose que je ressens, je vais vous dire, tous les débuts d'été, quand on se remet en maillot de bain. Mmh. Parce que là, on le voit. Et moi, ce que j'ai fait quand, à l'époque, encore une fois, aujourd'hui, c'est plus facile qu'il y a 15 ans, parce que j'ai eu 15 ans pour le digérer, parce que ma situation a évolué. Mais ce que j'ai fait, je n'osais plus me mettre en t-shirt ou me mettre torse nu, etc. Et on est parti avec des copains, à l'époque, au Club Med, en Tunisie, à Djerba, ce qui était le truc le moins intéressant à faire dans la vie, enfin, de mon point de vue. Mais moi, je sais que j'y suis allé juste pour ça. Pour accepter d'enlever le t-shirt. Et là, parce que...
Et puis, s'il y a bien un endroit où on vous demande de lever les mains en
exactement,
l'air, c'est au Club Med.
C'est ça. Donc là, c'est vraiment compliqué. Mais c'est là que vous vous rendez compte que votre handicap n'est pas seulement votre problème à vous, c'est aussi le problème des autres.
Mais Mona Interman, je l'ai dit, membre du CSA, en charge des questions de cohésion sociale et du dossier handicap. Comment la télévision française peut-elle se satisfaire de tels chiffres? 0,8%.
Mais non, Sonia, c'est pas 0,8. Dans le baromètre du CSA, c'est lorsqu'il y a des Jeux paralympiques, pour lesquels nous tannons, pardon du mot, les chaînes, la chaîne public en particulier, mais le chiffre réel, c'est 0,4% pour 12 à 15 millions de personnes. Je peux vous assurer d'une chose, c'est depuis mon arrivée au CSA en 2013, à chaque fois que je me trouve face à des dirigeants, et ça arrive assez souvent, du public comme du privé, c'est pas une question très glamour, parfois on me regarde un peu de travers, on se demande mais qu'est-ce qu'elle veut? Ben oui, qu'est-ce qu'elle veut? C'est l'égalité qu'elle veut. Et quand même, au fil du temps, les mentalités commencent à changer. Je me souviens d'une audition avec une dirigeante de l'audiovisuel, elle est dans une branche publique, et elle ne comprenait pas pourquoi nous lui demandions de faire en sorte que dans les DRH, comme dans les programmes, que l'on voit cette France-là. Parce qu'au fond, c'est le problème de la différence qui est posée. Mmh. Ce qui est valable pour le handicap physique visible, ou optiquement non détectable, et voilà pour toutes les questions de diversité de la société.
Ah oui, mais alors pour parler de la place des femmes à la télévision, pour plaider le quota de couleur de peau pour faire avancer les questions de diversité,
quota, vous dites des gros mots,
non,
ma chère.
Mais je sais que je dis des gros mots, mais il y a des gens qui sont prêts à y aller sur les quotas.
Oui,
en
absolument.
Revanche, pour parler du handicap, il n'y a plus personne. Eh bien, franchement, il n'y a plus personne.
Vous voyez, de temps en temps, il y a quand même une production qui sort, mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt.
Alors moi, je vous propose, Mona Interman, d'écouter un extrait de The Voice d'il y a deux ans. The Voice, c'est produit par une maison de production qui s'appelle Shine et qui promeut la diversité partout dans le monde. Et d'un seul coup, on voit une gamine arriver sur scène, chanter du Céline Dion. La gamine, elle est malvoyante et elle est là, elle est sans lunettes noires.
Il faut que tu saches que tu nous as mis les larmes aux yeux déjà. En tout cas, moi, tu m'as beaucoup ému déjà avant de me retourner. Et je te trouve tellement magnifique. En tout cas, voilà, on est tous les trois à côté de toi et on te remercie. Moi, je suis Patrick. Ici, c'est Patrick.
Et là, c'est Louis.
Et Louis, voilà. C'est Louis.
On s'est tous levés pour venir te voir et te dire combien c'était juste.
Voilà, c'était absolument bouleversant. Nous, on la voyait, elle nous regardait sans nous voir, et donc elle ne savait pas qui étaient les membres du jury autour d'elle. Après, il y a eu aussi une jeune fille aveugle dans La France est un incroyable talent, et puis on a vu un pianiste malvoyant l'année dernière dans The Voice. Il y a toute une génération de malvoyants qui rejettent les lunettes noires, mais de là à ne plus les porter à la télévision, à assumer ce regard, ce strabisme, ces pupilles différentes, Thomas Soto, ça c'est une avancée.
C'est une avancée.
Prime time sur TF1.
C'est intéressant l'exemple de The Voice. Mm. C'est intéressant parce que The Voice, c'est comme Hanouna, c'est une émission où on voit la diversité. Il n'y en a pas tant que ça. Mm. Des émissions où on voit la diversité. Et moi, un jour, je, en téléspectateur, je me suis amusé à faire les auditions à l'aveugle aussi chez moi. Voilà. Je me disais, je vais écouter, je verrai si je me retourne ou pas sur tel ou tel talent. Mais la vérité, c'est qu'à un moment, vous avez envie de voir, à quoi ressemble. Et donc, vous jugez, comme les autres, aussi sur le physique. Et je ne sais pas, c'est pas le jour où il y avait cette personne aveugle ou malvoyante, mais on se rend compte que c'est dans nos esprits.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est extrêmement déterminant.
Il faut l'accepter aussi. C'est aussi la vie. Après, c'est aux productions d'accepter, d'afficher des gens. De toute façon, c'est un problème qui va au-delà du handicap. C'est aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir une télévision, une radio, une classe politique, des élites qui ressemblent à la société, oui ou non? La discrimination, elle existe aussi envers les banlieues. Elle existe aussi envers.
Il y a beaucoup. C'est tout mon combat. Hein. Mais je suis très content de vous entendre le dire et j'espère que vous allez le refléter dans vos émissions, cher Thomas Soto, parce qu'en réalité,
le petit coup de pression.
Tout le monde se renvoie la balle. Mais je sais que les producteurs nous disent que les chaînes ne sont pas au rendez-vous. Je sais que cela se dit. J'attends que ça bouge. Mais vous savez, ça ne bougera pas uniquement parce qu'il y a le CSA qui est derrière ou parce qu'il y a Madame.
C'est la société civile. Très intéressant. C'est qu'il y a un moment où on le représente, le handicap. Et pour le représenter, il faut montrer quelque chose spectaculaire. On sait que sur France 2, par exemple, il y a une série policière qui s'appelle K1 avec un flic en fauteuil roulant. Mais le fauteuil roulant, finalement, et la canne blanche, c'est assez facile à comptabiliser.
C'est une maladie psychique qu'on ne voit pas.
Par exemple,
l'autisme. Alors, demandez à Gersande Perrin et à Francis Perrin le mal qu'ils ont eu pour essayer de faire sortir leur production concernant leur garçon Louis. Mais il y a en même temps des gens très courageux qui prennent la parole. Nous parlons aujourd'hui du handicap qui se voit ou qui ne se voit pas. Mais quand Jean Reno a parlé du diabète, il a eu le courage de le faire. Ça catalogue les gens aussi.
Parce que ce qui est différent devient un handicap, en fait, si on regarde les choses.
C'est ça.
Jean Reno, quand il accepte de faire la une de l'Express en disant « oui, je suis diabétique », on se dit, oh merde, mais il n'est pas comme nous alors. Mais qu'est-ce qu'il a? Et ça peut créer d'instinct une espèce de distance qui n'a pas lieu d'être. Après, moi, quand même, un point qui est important, je pense, c'est qu'il y a une loi qui, depuis 2015, si je ne dis pas de bêtises, devait permettre l'accessibilité des lieux.
Non, c'est 2005.
2005,
la loi du 11 février 2005.
En 2015, on en a parlé parce qu'il y avait 10 ans de retard. Excusez-moi, vous avez raison. Et aujourd'hui, on est en 2018 quasiment, et c'est toujours pas fait.
Mais 1789, c'était hier, et l'égalité entre les Français de toutes origines, de toutes couleurs, c'est encore peu réalisé. Donc j'espère que là, il y aura du changement aussi.
Je compte sur vous. Je crois dans la jeune génération.
Je vous regarde les yeux dans les yeux. Aussi. Mettez des handicapés, des personnes handicapées dans vos émissions.
Alors, et récemment,
des gens doués, des gens talentueux, et il y en a de toutes couleurs d'ailleurs.
Moi, je crois qu'il faut mettre des gens compétents. Après, on est compétents. Absolument. Et c'est pas parce qu'on
des
est handicapé ou pas
c'est
handicapé
exactement,
qu'on l'est.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que finalement, une fiction avec un flic en fauteuil roulant, on en a une. Un téléfilm comme
celui. Parce que le mec est bon comédien.
Le mec est bon comédien, et parce que ça fait un bon personnage, mais que toute l'histoire est basée sur ce handicap. Et sur ce fauteuil roulant, de la même manière que 6 millions de personnes ont regardé un téléfilm sur TF1, mention particulière, une jeune fille trisomique se battant pour passer le bac. Ce qui manque dans les fictions télé, par exemple, et dans nos séries, ce sont le tout venant de personnages, type, par exemple, un journaliste télé qui ne pourrait pas se servir de son bras gauche, mais que ça ne soit pas le pivot de l'histoire, que ce soit, comme vous dites, tout simplement intégré à la banalité de la vie, Thomas Soto.
Oui, mais c'est
ça. À la banalité du quotidien.
Le droit à l'indifférence, en fait. C'est ça. C'est
et
le droit à l'indifférence. Mais l'égalité, elle viendra de là. C'est-à-dire que quand on vous reçoit, on va pas vous dire, ah oui, alors toi, je t'ai reçu parce qu'on est sympa ici, on a envie de faire travailler des personnes handicapées. Non, toi, je te reçois parce que t'as un profil intéressant, parce que tu vas apporter quelque chose et parce que t'as du talent. Voilà, c'est tout.
Merci beaucoup, Thomas Soto. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci. On espère qu'on
ça
a fait
bizarre, sur des sujets comme ça. Je sors un peu de ma zone de confort, ça fait bizarre.
Ça fait bizarre de dire je, tout simplement.
Ouais, sans doute.
Oui, c'est ça.
C'est très bien.
Merci beaucoup.
Merci
tous
à vous.
Les jeudis, complément d'enquête, c'est sur France 2. Merci au King de l'instant M, Violaine Ballet à la réalisation, Redouane Tella à qui je dois beaucoup et notamment cette émission, Marion Philippe et tous les techniciens qui nous ont mis en onde cette semaine. Ce matin, c'était Léo Prangère. Ali Rebéi, pour nous, les hommes.
Bonjour, Céline de Villers, comment ça va? C'est quoi pour vous un homme viril?
Eh ben alors, justement, la virilité en question, c'est dans
voilà,
vos mains.
Qu'est-ce que la virilité en 2017? Dites-nous tout au 01 45 24 7000.